Merci Christine. Alors c'est un réel honneur pour moi d'être invitée à parler ici devant vous et dans ce lieu prestigieux. C'est aussi un réel plaisir pour la chercheuse que de voir son thème de prédilection, la voix, mis à l'honneur dans ses cours au Collège de France, et vraiment j'en suis plus que ravie. Voilà, et puis c'est aussi un plaisir pour moi personnellement de voir parmi vous beaucoup de collègues avec qui je travaille au quotidien et qui se sont déplacés pour venir m'écouter. Ils ne vont peut-être pas apprendre grand-chose de ce que je vais dire aujourd'hui, mais en tout cas, ça me touche beaucoup que vous soyez venus pour moi ce matin. Voilà, donc c'est vrai que j'ai un parcours un petit peu particulier au sens où mes racines sont dans la physique fondamentale, mais plusieurs rencontres, mais en particulier une, va m'orienter vers la voie, donc la rencontre de Michel Castelengo au moment où je dois m'orienter mes études à l'occasion d'un master. Et c'est vrai que passionnée de chant depuis que je peux vocaliser, voilà, j'avais l'envie d'appliquer mes connaissances en physique à la voix humaine. Et donc j'ai eu cette chance-là à travers une thèse qui s'est faite en co-direction avec deux personnes de très grande valeur, donc Michel Castelengo qui est ici présente et Christophe D'Alessandro qui est aussi un chercheur fabuleux qui rêve d'avoir un jour une chaire au Collège de France. Et voilà, j'ai eu cette chance de pouvoir faire cette thèse sur ce sujet-là et finalement d'intéresser le CNRS à ses recherches sur la voix humaine, puisque j'ai reçu un poste au CNRS peu de temps après la fin de ma thèse. Et depuis, je mène ces activités avec tous ces collègues qui sont soit des scientifiques, soit des phoniatres, soit des orthophonistes, soit même des professeurs de chant, ou des chanteurs. Il y en a certains dans la salle ici aussi. Et c'est vraiment fabuleux de pouvoir travailler sur cet objet-là, parce que c'est un objet qui est multiple et qui est vraiment notre quotidien à tous. Essayez de passer une journée sans parler, vous verrez que c'est extrêmement difficile. La voix, c'est notre forme d'expression et on en a besoin dans notre quotidien à un point que parfois on n'évalue même pas tellement elle fait partie de nous et que c'est naturel de faire des sons. Quand on n'en a plus, on comprend toute l'importance que ça a. Voilà, donc moi je vais vous parler donc de l'instrument voix, donc dans ses expressions chantées, et je vais revenir des animaux à notre animal, à nous-mêmes. Donc à l'instrument vocal humain. Alors, dès que l'on naît, on a tous à disposition un cadeau magnifique à la naissance, qui est cet instrument. Voilà, c'est un instrument qu'on nous donne gratuitement dès qu'on naît et dont on peut faire ce qu'on a envie, en fait, au cours de notre vie. Et donc, cet instrument s'exprime de multiples façons et je voudrais commencer ce voyage scientifique avec vous entre art et science par une petite balade à l'écoute de ces voix, de ces belles voix qui sont différentes formes d'exprimer avec le même instrument des souhaits artistiques. Donc voici quelques sélections. Donc ces voix, rarement les voix chantées laissent indifférents. Elles peuvent même émouvoir profondément. Elles peuvent faire couler beaucoup d'encre. Et donc, je voulais commencer mon parcours sonore par la voix de Maria Callas, une grande voix que je pense beaucoup d'entre vous soit ont déjà écouté, soit connaissent au moins le nom, donc qui a marqué les esprits, une grande soprane de son temps. Est-ce que c'est possible de l'avoir un peu plus fort ? Merci.
Oh.
donc beaucoup d'expressivité dans cette voix-là, des nuances. Donc vraiment des voix qui charment, qui laissent rarement indifférent. La voix aussi peut interpeller, et donc l'exemple suivant, c'est deux voix qui se mêlent, la voix d'un homme, la voix d'une femme, mais dans des registres qui sont tellement proches qu'on peut se demander à un moment, mais qui est l'homme, qui est la femme ? Donc un beau duo entre Robert Expert et Patricia Petitbon. Des voix qui peuvent déranger aussi, parce que sur une voix, on va avoir ce réflexe, plus ou moins inconscient, d'y mettre quelque chose, une personne, un genre. Donc c'est vrai que ce sont des voix qui interpellent. On va quitter le registre classique pour aller vers des choses plus de, qu'on appelle musique actuelle, pour montrer aussi que dans ces registres-là, on a des voix, et ces voix, elles ont des recherches esthétiques et des recherches de puissance. Donc voici un extrait de Céline Dion. Un style très différent qu'on peut ou ne pas apprécier, mais une voix en soi quand même très performante. Alors dans d'autres styles aussi, sous cette recherche de puissance, voilà par exemple le cas de Mahalia Jackson. Alors, donc là, on a écouté deux exemples féminins. Voici l'exemple d'une voix masculine qui n'est pas du tout en reste. Donc, c'est Sam Harris, un chanteur très connu dans le répertoire des comédies musicales. Des timbres très différents, des recherches esthétiques complémentaires, mais toutes des voix fascinantes. Alors, j'essaierai de vous montrer au cours de ma présentation qu'en fait, ce que fait ce chanteur-là, eh ben, c'est un peu la même chose que vont faire les chanteurs suivants, c'est-à-dire des voix bulgares, hein, des chanteurs donc, qui sont dans les musiques du monde et qui ont développé un style en rapport avec un aspect sociétal et culturel. On a vu la couleur, le timbre avec le contre-ténor et la soprane. On voit des recherches de puissance et d'efficacité vocale avec ces voix de musique actuelle ou ce cas du chant bulgare. On peut aussi avoir d'autres usages de notre instrument et utiliser certains aspects que je mettrai en avant par après pour vraiment faire des particularités de notre instrument vocal, un style à part entière. C'est le cas du yodel. Oh, la, 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 et puis pour finir, on peut aller chercher dans les extrêmes de notre voix, on peut aller chercher des choses qu'on ne produirait pas forcément spontanément. Donc voici deux exemples de recherche de sons très graves. I'm a lonely girl. Sonore, je voudrais mentionner un phénomène que je trouve absolument fascinant, que je n'aborderai pas ce matin par manque de temps, qui est la quintina, où des chanteurs vont se mettre ensemble pour faire émerger une voix qui n'existe pas. Donc on peut même avoir une production vocale chantée qui va faire émerger des voix qui ne sont pas là. Ah. Cassie, la voix de la Vierge au fête Pascal de Sardaigne. Nous avons un spécialiste dans la salle qui pourrait donner toute une conférence sur les voix de Sardaigne. Donc, j'ai pas non plus énormément de temps, donc je vais pas pouvoir vous faire un cours magistral sur tous les aspects de la voix chantée, donc il m'a fallu faire un choix, c'était difficile, de quoi je vais leur parler dans ce temps-là. Et donc j'ai choisi d'aborder avec vous quelques questions qui me sont souvent posées, où je vois bien qu'il y a un réel intérêt public dessus, et puis aussi qui sont des questions au centre des recherches actuelles sur la voix chantée. La première question que je vais aborder, c'est la question des registres. Alors, qu'est-ce qu'un registre en voix chantée ? La deuxième question, qui se compose de deux sous-questions, porte sur la façon dont on fait la sonorité d'une voix et puis qu'est-ce qu'on chante réellement de ce fait, en particulier dans l'aigu de notre voix. Et la troisième question, si j'ai le temps de l'aborder, portera sur des aspects de mélodie. Comment on fait la mélodie ? Est-ce qu'on peut chanter plusieurs mélodies avec un seul chanteur ? Et puis aussi sur l'aspect grave de la voix. Est-ce qu'on peut chanter grave même si on n'est pas une basse profonde, on est plutôt un ténor ou même une soprane. Donc je vais commencer ce séminaire par vous parler des registres en voix chantée. Alors déjà vous pouvez certains savent ce que ça veut dire, mais d'autres se disent le registre, d'accord, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais vous faire écouter deux exemples illustratifs. Donc, un exemple masqué. Alors, c'est un exemple que j'ai emprunté à Michel Castelengo, qui le faisait écouter dans ses cours à la classe d'acoustique musicale du conservatoire, du CNSM. Et elle demandait toujours à ses élèves, à votre avis, qu'est-ce que vous inspire cette voix ? Est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est une femme ? Je recontinue à faire ça, moi, dans mes conférences. Régulièrement, l'audience est partagée. Alors, allons-y. Qui pense que c'est un homme ? Voilà. Qui pense que c'est une femme ? Ah, pas grand monde. Ça marche à tous les coups, parce que c'est une femme. Je vous ai même mis une photo, donc Marilyn Horn. Donc, on voit par cet exemple qui est amusant, mais en même temps qui est très illustratif, qu'on peut avoir des couleurs très différentes sur l'étendue de sa tessiture vocale. Donc, dans le grave de sa voix, elle sonne comme un homme. Par contre, dès qu'elle monte, elle sonne plus comme une femme. Je vous la fais réécouter. Oh! trompeur aussi d'avoir le chanteur masculin qui s'insère à la fin. Mais n'empêche. Voilà, c'est aussi, ça montre aussi l'importance du visuel. Le chanteur, vous ne faites pas que l'écouter, hein, souvent vous le regardez. Vous auriez vu Marilyn Horne, je vous aurais fait écouter l'exemple, vous ne seriez peut-être pas posé la question. Vous auriez trouvé, oh oui, elle a une voix un peu grave, un peu masculine en bas. Là, quand je ne vous la montre pas, bon, ben, ça prête à confusion. Alors le registre, c'est déjà ça, c'est une couleur de son particulier. Ça se trouve dans la musique classique, ça se trouve aussi dans les musiques actuelles. Donc voilà l'exemple d'un chanteur populaire, malheureusement décédé bien trop jeune, Daniel Balavoine.
Qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut.
Marilyn Horne explorait le grave comme un homme. Daniel Balavoine, on sent que voilà, il veut explorer l'aigu, il veut pouvoir aller le plus haut possible. Et on sent bien que là, son timbre de voix change, sa couleur de voix change. Pour faire ses sons aigus, ben, il passe dans un autre registre. Alors, d'où vient ce terme registre pour la voix humaine ? Eh bien, ça vient d'une terminologie qui a été empruntée donc, à l'organologie. Et qui est donc utilisé depuis, au moins à ma connaissance en tout cas, depuis le XIIIe siècle. Ça ne fait pas si longtemps qu'on peut savoir ce qui se passe exactement au niveau physiologique sur la production de la voix. Ça date donc du milieu du XIXe siècle, quand un médecin et professeur de chant, Manuel Garcia, a l'idée d'utiliser un laryngoscope, donc un petit miroir accroché à une petite tige en fer qui a été mis au point peu de temps avant par un chercheur nommé Babington. Donc Manuel Garcia a l'idée d'utiliser ce laryngoscope de Babington pour aller voir au fond de sa gorge ce qui se passe et puis au fond de la gorge de ses élèves. Voilà donc à quoi ça ressemble. Ce petit miroir est placé au fond de la gorge et il permet d'avoir une vision de ce qui se passe en dessous. C'est là que vous voyez aussi toute la difficulté auxquelles on faisait face à l'époque et auxquelles on continue à faire face actuellement quand on veut étudier cet instrument. C'est extrêmement difficile d'aller étudier l'instrument vocal humain sans interférer sur la production de la voix. Parce que essayer de produire des consonnes langue tirée, c'est pas possible. Donc là, les seuls sons qu'on puisse produire avec une langue qu'on tire comme ça hors de la bouche, c'est voilà, vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus. Donc vous voyez les limitations auxquelles on est confronté et donc on doit trouver des solutions pour dépasser ces problèmes-là, pour essayer quand même d'aller comprendre ce qui se passe. Donc si on revient à Manuel Garcia, donc il applique ce laryngoscope à miroir sur ses élèves, sur lui-même, et il présente ses travaux à l'Académie des sciences, donc au milieu du XIXe siècle, et il définit le terme registre donc, par une série de sons consécutifs et homogènes, allant du grave à l'aigu, et dont la nature diffère d'une autre série de sons également consécutifs et homogènes par un principe mécanique. Donc, jusqu'à présent, on s'appuyait sur l'organologie et le registre vocal, c'était une couleur, c'était un timbre. Là, maintenant, on voit que le registre vocal commence à devenir autre chose, puisque Manuel Garcia parle d'un principe mécanique. Donc, il définit trois registres, le registre de poitrine, le registre de fossé et le registre de tête. Et il montre un petit peu les étendues correspondant, selon lui, à ces registres. Dans la même ligne, un peu à la même époque, peu de temps après, d'autres chercheurs, des physiologistes, Benke et Brown, vont également introduire la notion de mécanisme par rapport à cette notion de registre. Donc, un registre constitue une série de sons qui sont produits par le même mécanisme. Alors, pour eux, il y a trois mécanismes principaux qui sont le mécanisme épais, le mécanisme fin et puis le petit mécanisme. Voilà, donc si on va maintenant, si on se positionne maintenant dans cette balade historique au début du XXe siècle, Bon, ben, selon les auteurs, on reconnaît l'existence des registres et il existe entre 2 et 5 registres. Et puis, il y a un débat sur registre ou mécanisme. On voit que dans les années 30, Wilcox a introduit le terme registre lourd, mécanisme lourd, mécanisme léger, qui est un terme qu'on utilise encore actuellement. Dans les années 60, certains chercheurs ont l'envie d'essayer de structurer le débat sur les registres. Et donc, il y a un article de Murner et Hall qui va essayer de proposer, de montrer déjà toute la variété de la terminologie qui existe dans la communauté scientifique sur les registres et comment elle se structure. Donc, voilà les différents termes qu'il... Parmi les différents termes, tous ne sont pas là, qu'ils mettent en avant pour qualifier les registres en voix chantée. Et puis, finalement, leur conclusion, c'est que la seule façon de définir un registre, c'est par son étendue en fréquence, sur une échelle musicale. Donc là, on est en train de s'extraire de nouveau de l'aspect mécanisme. On revient vers une sonorité, une couleur sonore sur une étendue en fréquence donnée, avec éventuellement pas de recouvrement. Dans les années 60, il y a aussi des personnes qui vont faire vraiment avancer sensiblement la recherche sur la voix. Et c'est une de ces personnes, c'est un Néerlandais qui s'appelle Vandenberg, et qui va travailler sur des larynx excisés, qui va montrer la vibration sur la larynx excisée à l'aide de vidéos. Donc je vous montre ce film d'époque.
Between these extreme adjustments, chest and falsetto, we can produce intermediate types of vibration corresponding to intermediate degrees of longitudinal tension. This can be seen in the excised larynx here and of course also in the living larynx. Now, with adequate medial compression, let us begin in the upper part of chest voice and increase longitudinal tension.
Donc ils étirent les plis vocaux. Et vous allez voir ce qui se passe dès qu'ils mettent une tension sur les plis.
Now we go back down.
Donc on n'est pas encore à l'époque de la cinématographie ultra rapide. Là, c'est de la vibration que vous voyez, c'est une vibration qui est reconstruite par stroboscopie. Mais néanmoins, ce genre de films à l'époque sont des films absolument sensationnels pour plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est qu'on arrive à faire vibrer un larynx. Voilà, là, c'est un larynx excisé. On envoie de l'air, on le fait vibrer. Et ça, c'est déjà très fascinant. Et puis, on arrive à lui faire faire des sauts de fréquence. Donc... En étirant simplement les plis vocaux, on fait faire ces sauts de fréquence. Et on voit aussi une sorte de couplage, découplage des structures. Donc, dans ce même esprit, Vénard propose d'illustrer par la cinématographie et par ses schémas les deux principaux mécanismes sous-jacents à la notion de registre, donc le mécanisme lourd et le mécanisme léger qui avait été introduit par Wilcox dans les années 30. Donc vous voyez, pour le mécanisme lourd, pour lui, les plis vocaux sont épais. Donc vous les voyez ici en vue de dessus, et ici en coupe comme ça le long du cou. Donc vous voyez, les plis sont épais, ils vont s'ouvrir sous la pression de l'air et se refermer par rappel élastique et par effet Bernoulli. C'est donc la théorie myoélastique dont a parlé Christine dans son cours. Voilà, dans le mécanisme lourd, ses plis sont épais. Dans le mécanisme léger, ses plis sont beaucoup moins épais. comme vous voyez ici. Alors, selon eux aussi, la vibration n'est plus située sur l'ensemble du pli, mais que sur la partie membraneuse, donc plus sur la partie cartilagineuse. Donc, d'autres chercheurs viennent contribuer à amener de l'eau au moulin, en particulier un chercheur dont on retiendra le nom, Irano, qui va faire une étude des activations musculaires de ces muscles intrinsèques au larynx et qui va montrer en particulier que dans la voie de poitrine, par rapport à la voie de tête ou le falsetto, le fossé, on a une activation plus importante du muscle thyroaryténoïdien, donc ce muscle vocal, celui qui est le centre du pli vocal. D'autres chercheurs, alors là c'est un phonéticien, viennent apporter leur pierre à cette discussion sur les registres. Donc on a une profusion d'études dans cette époque-là, aussi parce que ça correspond au moment où les instruments pour mesurer la voix commencent à se développer. Donc on a de plus en plus de personnes qui peuvent présenter des résultats à l'appui d'expériences. Donc Olien, lui, s'appuie sur cette notion de registre lié à une qualité vocale, mais maintient que le registre, c'est un événement qui est totalement laryngé. Donc selon lui, il y a trois registres. Donc il va trouver pour ces trois registres des termes nouveaux, donc qui n'existaient pas, donc ça ne va pas simplifier les choses. Donc il va inventer de nouveaux termes. Voilà, qui pour lui, c'est intéressant d'inventer de nouveaux termes parce qu'il dit au moins ces termes-là, ils ne sont pas connotés, on ne va pas se prendre la tête dessus. Ce qui n'est pas totalement vrai parce que finalement, on se les traîne encore. Donc les nouveaux termes, c'est pulse, modal et loft. Voilà, et puis on voit à quoi peuvent correspondre ces nouveaux termes par rapport aux anciens termes. On n'en avait pas assez. Et puis il mentionne aussi qu'éventuellement existe un quatrième registre en haut de ces trois registres qu'il démontre. Ce quatrième registre dont on ne sait pas trop ce que c'est. Flûte, whistle, pipe, on ne sait pas. Bon, à la fin des années 70, toute la communauté se réunit, parce que bon, ça suffit comme ça, il faut se mettre d'accord. Donc ils décident de se mettre d'accord, ce qui est vraiment souhaitable. Donc ils font une grande réunion, ils vont discuter des registres. Cette réunion, elle est présidée par ce fameux Olien qui a inventé des nouveaux termes. Et donc, ils vont prendre des décisions par rapport au registre, c'est-à-dire ils vont acter des choses. Alors, le premier acte, c'est qu'ils reconnaissent l'existence des registres, parce qu'il y a certains professeurs de chant pour qui les registres n'existent pas. Une voix n'a qu'une couleur. Alors là, la communauté scientifique, qui est élargie à la communauté médicale et à la communauté de l'enseignement du chant, acte qu'au moins les registres existent. Donc, il faut qu'on les reconnaisse comme une entité. Le deuxième acte, c'est que ces registres, selon eux, diffèrent entre la parole et le chant. Donc, que ce sont des entités séparées selon qu'on parle de voix parlée ou qu'on parle de voix chantée. Ensuite, qu'il peut être souhaitable, pour des raisons d'esthétique, d'éliminer l'effet des registres. Enfin, ce qui a donné le plus à débat dans cette réunion du comité, du COMET, au début des années 80, c'est la source des registres. Donc, ils acceptent l'idée que probablement, il y a plusieurs sources aux registres, en particulier une source laryngée et une source liée au conduit vocal, mais aussi, comme vous le voyez là, c'est source de débats très vifs au sein de la communauté. Enfin, ils reconnaissent, ils sont obligés finalement d'écrire dans ce rapport qu'une minorité, mais une minorité substantielle, est favorable à ce que le registre soit considéré comme un événement qui soit uniquement lié au larynx, et qu'il n'y ait donc aucune interférence du conduit vocal lui-même. Enfin, ils terminent par la question du nombre et la dénomination. Donc la dénomination, il faut leur trouver un nom à ces fameux registres. Donc, ils vont faire plein de propositions et ils ne vont pas pouvoir converger vers un accord. Donc, ils trouvent que voilà, il faut avoir des termes qui sortent un petit peu des termes traditionnels. Donc, ils veulent des nouveaux termes, un peu, faut dire Olien et Sherman, un peu à l'idée de Sherman, de Olien. Et ils proposent éventuellement même de les numéroter, ces fameux registres. Bon, plutôt que de leur donner un terme, bon, ben, on les note. 1, 2, 3, 4, voilà. Ou alors, on utilise des termes qui sont très ancrés, qui sont très clairs, comme « heavy light », donc « lourd, léger », ou « lower, upper », le registre bas, le registre haut. Donc, il faut voir que c'est quelque chose qui nous poursuit. Si dans la communauté des sciences de la parole, donc les phonéticiens, les linguistes, finalement, ces personnes-là se mettent d'accord sur l'usage de trois registres, qui sont le pulse ou fry, le modal ou chest, qui se traduit en poitrine en français, ou le falsetto ou fossé, dans la communauté voix chantée, on n'a pas réussi à dépasser cette controverse. Et actuellement encore, on a des chercheurs, comme on a beaucoup vu le mentionner Tidze, c'est un chercheur de grand renom dans notre communauté, qui lui considère que le registre, c'est lié à la qualité du son, uniquement. Alors que d'autres chercheurs considèrent que le registre, ça doit être défini par des propriétés qui sont liées au larynx, donc les propriétés biomécaniques du larynx. Alors, pour couronner le tout, donc, il y a eu une thèse récente sur les registres en voix chantée, Registers in Singing, par un Hollandais, Donald Miller, où dans cette thèse, finalement, il met en avant le fait qu'il y a deux approches à la notion de registre, donc celle liée au larynx, donc une caractéristique propre de la source, ou celle qui intègre le conduit vocal avec la source laryngée. Malheureusement, il n'arrive pas à trancher, et donc il décide finalement de garder les termes de registre, et puis quand il veut parler uniquement des aspects laryngés, d'exprimer ça sous forme de chest vibratory pattern et falsetto vibratory pattern, c'est-à-dire un registre qui est lié aux aspects vibratoires de poitrine et un registre qui est lié aux aspects vibratoires de tête, de falsetto. Donc là, du coup, ça donne des situations très compliquées parce que son registre de poitrine est dans un registre qui est lié aux aspects de poitrine. Voilà. Et donc, si on regarde chez l'homme et chez la femme quelles sont les étendues des registres, on se retrouve encore avec un grand nombre de registres et on n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'il y a derrière tout ça. Donc, ça, c'était pour vous faire un petit parcours de pourquoi, moi, je pense que la question des registres en voix chantée est importante et pourquoi elle anime autant la communauté scientifique. Heureusement pour vous, je vais vous apporter quelques éléments de réponse maintenant. Donc, que sont les registres? Donc, on voit que pour Garcia, le registre, bon, ben, c'est un principe mécanique, c'est lié à un avionnement laryngé. Voilà, donc, c'est un concept qui est uniquement lié au larynx. Le problème avec cette vision-là des registres, c'est que ça ne prend pas en compte le ressenti des chanteurs. Pour le chanteur, il y a des registres qui ne sont pas que de l'ordre des sensations laryngées. Donc, on peut avoir à choisir une définition ou l'autre. Moi, quelque part, je n'ai pas envie de choisir. Voilà. J'entends les chanteurs qui me disent « Moi, le registre, je suis en registre de ça ou de ça ». Moi, en tant que scientifique, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir leur dire bah, « Écoutez, ce que vous produisez là, c'est produit de telle façon, physiologiquement parlant. » Voilà. Donc, on est face à une grande diversité de termes et une grande diversité aussi d'étendues en fréquence. Et donc, au final, le problème derrière tout ça, c'est de trouver des façons d'identifier et de spécifier les mécanismes physiologiques qui sont sous-jacents à cette terminologie. Et donc, maintenant, je vais vous parler de comment on peut aller identifier ce que j'appellerais un mécanisme laryngé. Donc, pour identifier les mécanismes laryngés, pour identifier ce qui se passe au niveau du larynx, ce qu'on a de plus intéressant à disposition, ce sont les phénomènes de transition qui apparaissent dans une voix chantée. Donc, quand vous faites un glissando ascendant-descendant, ou ici, sur cet exemple, un glissando descendant de l'aigu vers le grave, vous pouvez, si vous le souhaitez, ou alors parfois, quand vous n'êtes pas un chanteur entraîné, vous pouvez avoir des sauts de fréquence. Donc, voici un exemple. Alors là, c'est un contre-ténor entraîné, mais qui, à ma demande, libère son instrument pour que le saut de fréquence se fasse. Donc voilà, il part de l'aigu, et puis il passe dans le grave, et on a une grosse transition que vous voyez ici sur cette analyse temps-fréquence. Donc vous voyez ici, d'un seul coup, il passe d'une fréquence aiguë à une fréquence grave. Si on regarde ce qui se passe au niveau des plis vocaux, alors là, c'est de la cinématographie ultra rapide, donc ça va aller assez lentement. Il n'y a pas de reconstruction du mouvement, c'est vraiment... toutes les images ont été prises sur les cycles glottiques, avec une vitesse de 4000 images par seconde. Donc là, on est au début de la transition, donc on est au mécanisme, on est dans la partie aiguë. On voit qu'il y a une instabilité qui s'installe sur le pli. Et puis, on passe dans la partie grave. Donc, vous voyez, avec un contact qui est plus lent, donc une période plus longue. Alors, il existe une technique, voilà, qui consiste à prendre une ligne de l'image. Donc, ici, je vous ai positionné D et G, ça représente la droite et la gauche de la personne. Donc, on prend une ligne de l'image et puis, en fait, on va la faire défiler au cours du temps. C'est ce qu'on appelle une analyse chymographique. Donc, si on prend cette ligne-là, on la fait basculer et ensuite, on la fait défiler au cours du temps, on ne garde plus que l'information de cette ligne-là. On perd l'information de tout le reste du plan glottique. Par contre, on a une façon de représenter ce qui se passe au niveau temporel pour cette ligne-là. Donc, pour ce point-là du pli vocal, on voit que quand on est là dans la partie aiguë, bon, on a un contact ici qui est assez rapide, et puis on a une phase d'ouverture ici en noir qui est assez longue. Vous voyez que la zone de transition, même si sur la vidéo on voit que la zone de transition, ben, elle est sur plusieurs cycles, sur cette analyse-là, on voit que pour ce point-là de la corde, elle est quand même assez rapide, la zone de transition. C'est-à-dire que sur 2-3 cycles glottiques, on passe d'un contact, contact qui n'est pas très, très long et d'une ouverture importante à un contact qui est important en temps et une ouverture qui est déjà plus réduite. Et vous voyez aussi le changement de période par le fait qu'ici, on a beaucoup de cycles et ici, on en a peu. Qu'est-ce qui se passe au niveau des plis vocaux ? Donc, Christine vous a fait l'anatomie tout à l'heure et elle vous a bien montré cette structure multicouche qu'on a à disposition. Alors, grâce à cette structure multicouche, eh bien, on a un instrument qui a de multiples potentialités. Donc, en particulier, le muscle vocal, qui est ici représenté en rouge, peut participer ou non à la masse vibrante en action. Et c'est donc ce qui va être à la base de ce qu'on va appeler les mécanismes 1 et 2. C'est-à-dire que dans le premier des mécanismes, ici, le muscle vocal en bleu participe complètement à la masse vibrante en action. Donc, les différentes couches sont soudées les unes aux autres et c'est l'ensemble du pli, le muscle vocal compris, qui vibre. En mécanisme 2, il s'opère un découplage des structures au niveau de la partie superficielle du pli. Le muscle vocal, même si vous pouvez encore continuer à le contracter, vous en faites ce que vous en voulez, mais par contre, la partie superficielle, elle va se mettre à vibrer, la partie profonde, non. Elle se découple. C'est pour ça aussi que vous avez un pli qui est épais et un pli qui l'est beaucoup moins. On retrouve des choses qui étaient déjà dans la connaissance du temps de Vénard, le mécanisme léger, le mécanisme lourd. Les mécanismes M1 et M2, c'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est des mécanismes qui sont identiques dans la parole et dans le chant. C'est-à-dire qu'on peut très bien, dans la parole, utiliser le muscle vocal comme un ensemble, avec donc la participation du muscle vocal à la vibration, ou on peut très bien avoir un découplage de la structure, et donc on n'utilise que la partie superficielle. Quand je vous parle comme ça, par exemple, je suis en mécanisme 1, si je passe en mécanisme 2, je suis comme ça. Et puis on peut passer de l'un à l'autre sur une même note. Je peux vous faire « ah ». Je passe de l'un à l'autre, tout ce que je fais, c'est le découplage de la structure. Alors, si on regarde maintenant ce qui se passe quand on va du plus grave au plus aigu. Donc ça, c'est un glissando ascendant qui a été demandé par une soprane. Je vous fais écouter. On retrouve ces phénomènes de transition dont on a parlé. Donc on a ici, entre ici et là, on a un saut de fréquence. On a un saut très net de fréquence dans l'aigu de sa voix. Et puis on a un grand saut de fréquence aussi dans le grave. Ces transitions, ça dénote les séparations entre ces différents mécanismes. Et donc, il a été montré dans les années 90, dans la thèse de Bernard Roubaud, qu'on a à disposition, dans la voix humaine, en parole comme dans le chant, quatre mécanismes laryngés. Voilà. Et ces quatre mécanismes correspondent à des ajustements biomécaniques du vibrateur principal, que sont les plis vocaux. Alors, juste pour vous dire un peu plus sur ces mécanismes, quelles sont leurs caractéristiques physiologiques, de ce qu'on en sait. Donc, le mécanisme zéro, c'est un mécanisme qui va vous permettre de produire les sons les plus graves de votre tessiture, et vous l'avez tous à disposition, les enfants aussi l'ont à disposition. Donc, quand je fais... Voilà, j'utilise le mécanisme zéro. C'est quelque chose qu'on peut trouver dans la parole. Quand vous dites « Ah bon, tu crois ?» ou en fin de phrase, ou de temps en temps, vous allez voir des gens qui vont l'utiliser pour ponctuer leur discours. Donc, ce mécanisme se traduit au niveau des plis vocaux par une ouverture-fermeture très rapide et une grosse phase de contact. Vous ne voyez pas très bien. Donc, les plis sont très courts, ils sont très épais, et toutes les couches sont très détendues. Donc, on a une activité minimale au niveau des muscles intrinsèques au larynx qui nous intéresse le plus, en particulier le muscle cricothyroïdien qui fait la bascule dont a parlé Christine, et puis les muscles interaryténoïdiens qui font la compression. On a une phase fermée qui est donc très très importante dans ce mécanisme-là, qui donne du coup aussi cette impression de son impulsionnel. Là, on n'est plus dans une perception de hauteur, on est vraiment dans une perception d'impulsion. Le mécanisme 1, donc on a choisi de l'appeler 1, puisque c'est le mécanisme qu'on utilise principalement dans la parole, homme et femme, et qu'on va beaucoup retrouver dans le chant chez les voix d'hommes, et dans le chant chez les voix de femmes, quand c'est, quand c'est des chanteuses de musique actuelle. Par contre, pour la voix lyrique, les femmes utiliseront plutôt l'autre mécanisme, le mécanisme 2. On voit que ce mécanisme permet à l'homme et à la femme de produire les fréquences depuis le grave de leur tessiture jusqu'au médium. Et on voit sur cette représentation musicale que finalement, en moyenne, l'homme et la femme vont avoir la même limite supérieure pour la production des sons en utilisant ce mécanisme-là. Donc, dans ce mécanisme-là, les plis sont déjà un peu plus tendus qu'en mécanisme zéro. Ils sont aussi un peu plus étirés. Ils restent très épais, comme dans le mécanisme zéro. On a une vibration donc, sur toute leur longueur, sur toute l'épaisseur. Au niveau des activités musculaires, l'activité principale qu'on mesure, ça va être celle du muscle vocal lui-même. Et c'est lui, effectivement, par sa contraction, qui va changer la raideur du système. Et puis, on va avoir des... Alors, le quotient ouvert, c'est un quotient qui donne, finalement, la durée d'ouverture de la glotte, donc l'espace entre les plis vocaux, au cours d'un cycle, ramené à la période du cycle. Donc... Ici, dans ce mécanisme-là, la glotte reste ouverte entre 30% et 80% de la durée du cycle glottique. Donc, c'est très variable. Ah oui, j'aurais pu vous faire écouter aussi. Ça, c'est le son qui est associé avec ce que vous voyez là. Donc, dans le mécanisme 2, on voit que cette fois-ci, dans le mécanisme 1, l'homme et la femme partageaient la limite aiguë. Dans le mécanisme 2, c'est plutôt la limite grave qui est relativement proche pour l'homme comme pour la femme. Et puis ensuite, l'homme et la femme vont pouvoir étendre leur tessiture dans ce mécanisme et pouvoir produire des sons aigus dans leur tessiture. Donc vous voyez qu'on a une différence par rapport, déjà visuellement par rapport au mécanisme 1 qui est que les plis sont plus étirés. Les plis sont plus étirés, on voit aussi qu'ils sont plus fins, on devine qu'ils sont plus fins, et puis on voit que finalement le contact est plus bref. Donc on observe au niveau des activités musculaires qu'il y a une bascule cette fois-ci, c'est-à-dire que le muscle vocal, son activité musculaire n'est plus prépondérante par rapport à l'activité musculaire du cricothyroïdien. Il peut y avoir une activité musculaire dans ce mécanisme-là, musculaire du TA, du tiroir rétinoïdien, mais cette activité ne sera plus prédominante par rapport à celle qui consiste à étirer le pli. Parce que finalement, dans ce mécanisme-là, pour faire le changement de fréquence, on n'a plus l'usage du muscle vocal lui-même, il va falloir utiliser la bascule. Donc on voit aussi, dès qu'on fait des mesures de caution ouverte dans ce mécanisme-là, que les plis vocaux vont rester ouverts au moins 50% du cycle glottique, voire plus. Donc on ne trouvera plus de caution ouverte inférieure à 50% du cycle glottique. Voilà. C'est une même personne qui me fait les quatre mécanismes sur ces exemples-là. Alors après, dans l'extrême aigu, bon, on a ce mécanisme 3, donc, qui permet de produire des sons aigus à très aigus. Alors là, j'ai mis 1400 Hz, mais en fait, un jour, à une fête de la science, je me suis amusée à faire produire des sons les plus aigus aux personnes qui venaient sur le stand. Alors les enfants, ils ont adoré. Et j'avais un groupe de 20 enfants agglutinés autour de moi qui voulaient absolument tester leur aigu. Donc c'était le concours de celui qui ferait le son le plus aigu. Mes voisins, d'ailleurs, n'étaient pas d'accord et n'étaient pas très contents. Mais bon, ça a animé le stand. Et alors, en fait, j'ai eu la surprise de pouvoir mesurer des fréquences qui allaient jusqu'à 2700 Hz. Donc, c'est de l'extrême aigu. C'est même pas représenté sur cette portée musicale. 2700 Hz chez pas seulement un enfant, mais au moins une dizaine d'enfants sur l'ensemble des enfants qui sont venus sur le stand. Donc, voilà, c'est un mécanisme qui peut monter très haut. Donc dans ce mécanisme dont on ne connaît pas forcément grand-chose pour l'instant, les plis vocaux sont extrêmement étirés, ça on le sait. On a une masse vibrante et une amplitude de vibration qui sont extrêmement réduites, voire parfois inexistantes ou positionnées sur différents points du pli vocal. Donc ça fait des petits cris de souris comme ça. Et puis, selon certains auteurs, on a une vibration qui n'est plus que sur une partie de la longueur. Alors moi, ce que j'ai observé, c'est que de temps en temps, ça n'est que sur une partie de la longueur. Et puis, de temps en temps, on peut voir deux parties de longueur qui vibrent, voilà, avec un absence de vibration au milieu. Mais vous comprenez aussi que dès qu'on a des hauteurs qui avoisinent les 1000 Hz, voire plus, il nous faut aussi des outils qui soient performants au niveau cinématographique. Si on utilise une caméra, par exemple, à 4000 images par seconde, c'est une caméra qui prend beaucoup d'images par seconde, elle ne prendra que 4 images sur un cycle glottique, dans le cas de cette production-là. Donc, dans ces cas-là, il est intéressant d'avoir des images, des techniques de visualisation de plus en plus performantes et de plus en plus rapides. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous faire voir cette petite vidéo. C'est un peu illustratif. Là, on revient de la science, on va un peu dans l'art. Donc, c'est un chanteur de rhythm and blues qui fait usage dans son chant justement des trois premiers mécanismes, le M0, le M1 et le M2, et il les associe au genre. Donc en M1, il va chanter comme un homme, en M2, il va chanter comme une femme, en M3, je vous laisse deviner pour ceux qui parlent anglais, pour les autres je traduirai, et donc il va vraiment utiliser ça pour chanter finalement le garçon, la fille et le point d'interrogation. I've got a boy I love to sing. I sing like a girl and I sing like a frog. I'm an only boy. Donc, I'm a lonely frog. Je suis une triste grenouille, très seule, très solitaire. Je suis une grenouille solitaire. Donc, il s'est même fait surnommer Frogman, donc ce chanteur, justement parce qu'il a cette particularité d'imiter la grenouille en utilisant le mécanisme M0 dans son chant. Alors, je vous ai enlevé des parties, mais il est intéressant de voir que dans cette chanson, il y a une partie refrain où il fait des ouh, ouh, ouh. Et dans mécanisme 1, il va faire cette partie refrain. En mécanisme 2, il va la faire aussi. en mécanisme 3, en mécanisme 0, il ne va pas pouvoir. Il va pas pouvoir la faire parce que le mécanisme 0 ne permet pas vraiment de faire des sons qui ont une hauteur perçue. Donc, il ne peut pas faire de la mélodie, vraiment. Donc là, tant qu'il articule des paroles, ça va. S'il devait chanter une mélodie, il ne pourrait pas le faire en mécanisme 0. Alors, un autre exemple artistique, eh bien, c'est le fait que la transition entre mécanisme 1 et mécanisme 2, ça peut être utilisé comme un style à part entière. Et donc, là, je l'illustre sur la technique du yodel. Donc là, encore une diapositive que je dois à Michel Castelengo de ses cours d'acoustique musicale. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le yodel, on le connaît dans notre civilisation européenne, à travers l'Autriche ou à travers la Suisse. Mais en Afrique, le yodel est quelque chose de pratiqué également. Et du coup, pour vous illustrer le yodel, je vous fais écouter un chant africain des pygmées de République centrafricaine. Donc vous entendez une alternance de son grave et de son aigu. Donc ces sons graves sont faits en mécanisme 1, les sons aigus sont faits en mécanisme 2. Et vous voyez aussi qu'il y a des voyelles qui accompagnent ça. Donc dans le mécanisme 2, ces chanteurs ont recours à des voyelles fermées, ce qu'on appelle les voyelles fermées, comme le I. Et dans le mécanisme 1, ces chanteurs ont recours à des voyelles plus ouvertes, comme le A ou le O. Et c'est vraiment intéressant de remettre cette écoute en parallèle avec l'écoute du yodel que je vous avais fait entendre au tout début de l'exposé, parce que c'est vraiment... L'accompagnement musical n'est pas le même, c'est sûr, mais c'est vraiment la même technique. Donc des alternances de mécanismes qui sont supportées par des choix de voyelles. Ou soutenu par des choix de voyelles. Alors, comment est-ce que nous, dans le quotidien de notre laboratoire de recherche, on va détecter ces phénomènes de transition? Eh bien, on va utiliser un instrument qui s'appelle l'électroglottographie. Alors, c'est quelque chose qui est très connu aussi dans le domaine médical, puisque quand vous allez faire un examen chez un ORL ou chez un phoniatre, il peut être courant de vous poser deux électrodes sur le cou pour tester l'accolement de vos plis vocaux. Donc voilà, pour nous, cette électroglottographie, c'est une méthode très intéressante qui nous permet d'aller de façon indirecte, mais du coup non invasive, mesurer le contact entre les plis vocaux. Donc on positionne deux électrodes sur le cou du locuteur ou du chanteur. Alors, je voulais vous faire une petite démonstration en direct, donc je vous ai ramené un électroglottographe. Alors ça, c'est l'électroglottographe de voyage. Du coup, il est très petit, là. Et puis en plus, les électrodes se décollent, ce qui n'est pas très pratique. Mais bon, ça devrait permettre de faire une toute petite démonstration. Ce n'est pas du tout l'électroglottographe qu'on utilise au laboratoire, mais par contre, c'est un électroglottographe qui me permet de vous montrer un petit peu ce qui se passe. Alors, à quoi ressemblent les signaux? Alors, le signal donné par l'électroglottographe, délivré par l'électroglottographe, est ici en vert, le GG. Vous voyez que quand le pli vocal s'accole, ce signal monte, et quand le pli vocal se décolle, ce signal s'abaisse. En fait, ce qui se passe, c'est que ce dispositif est basé sur le principe d'un ohmmètre, c'est-à-dire une mesure de résistance. Donc le dispositif envoie un très faible courant entre les deux électrodes qui sont positionnées de part et d'autre de la glotte. Et ce courant, en fait, il va rencontrer une résistance selon que la glotte est ouverte, ou pas de résistance quand la glotte est fermée, quand les plis vocaux sont en contact. Et donc, en mesurant la résistance, eh bien, on a simplement le courant modulé par le contact et l'ouverture. Le contact et l'ouverture. Le courant passera plus facilement quand il y a contact. Alors, ma petite démonstration. Allons-y. Voilà, si ça marche. Donc, mon objet de voyage. Alors déjà, vous entendez du coup ce signal. En fait, c'est le signal de contact au niveau des pieds. Si on regarde ce que j'entends. Donc là, le signal sature complètement. N'arrive pas à le faire désaturer. Donc ça c'est bon. Vous voyez ici le signal EGG. Par contre, il n'est pas comme je vous l'avais représenté. Un instant, je vais juste changer sa polarité. Hop. Donc là, vous voyez le signal de contact. Donc cette modulation des plis vocaux. Donc quand je monte en fréquence, ben, les plis vocaux vont battre de plus en plus vite. Et c'est ce que vous voyez, les impulsions, comme on a une fenêtre d'une durée fixe, les impulsions vont se rapprocher. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, à la fin de la conférence. Donc, maintenant que vous savez ce que c'est que l'électrogothographie, vous allez mieux comprendre ce que je vais vous expliquer. Donc, pour identifier les mécanismes laryngés, on va utiliser ce dispositif-là. En quoi ça peut nous être utile? Eh bien, si vous avez compris ce que je vous ai dit sur les mécanismes laryngés, il y a une histoire d'épaisseur des plis. Donc, quelque part, plus les plis sont épais, plus le contact va être important. Donc, on peut s'attendre à ce que ce signal-là, il soit modelé, en fait, son enveloppe soit dépendante de l'épaisseur du contact. Et c'est effectivement ce qui se passe. Si on reprend un glissant d'eau du même type que ce que je vous ai fait écouter tout à l'heure, et qu'on regarde l'enveloppe du signal électroglottographique, on voit ici donc, la correspondance entre les transitions repérées dans le cas de ce glissant d'eau par les ruptures de fréquence, et puis l'enveloppe. Et vous voyez ici qu'on peut positionner aussi les transitions à ces modifications rapides et importantes de l'amplitude de l'enveloppe. Donc l'amplitude de l'enveloppe du signal électroglottographique reflète le changement dans la masse vibrante en action. Donc une masse vibrante en action importante en mécanisme 1, une masse vibrante en action réduite en mécanisme 2, voire inexistante, en tout cas non détectée par l'instrument en mécanisme 3. Donc masse vibrante importante qui diminue au passage en mécanisme 2 et qui diminue encore, voire pour s'annuler, pour ne plus donner de signal au mécanisme 3. Alors, voici comment on va l'utiliser concrètement. Donc, par exemple, voici un contre-ténor à qui je demande de faire un glissando ascendant-descendant. Alors, pour la première fois, je lui demande de le faire sans masquer le saut de fréquence. Il faut que je remette le son. Donc là, vous avez un saut de fréquence très net au passage de mécanisme. Et puis, vous voyez sur l'enveloppe du signal électroglottographique, vous voyez cette variation du contact au moment des transitions. Alors, la caractéristique des contre-ténors, c'est qu'ils apprennent dans leur technique à lisser ce passage pour que finalement, du grave jusqu'à l'aigu de leur tessiture, on n'ait pas l'impression que c'est deux personnes qui chantent. Donc là, je lui ai demandé de faire un exercice, mais qui n'est pas... voilà ce qui fait habituellement un contre-ténor lisse ce passage. Alors, regardons ce qui se passe quand il me fait un glissando ascendant-descendant avec sa technique de lissage. Oh. des oreilles averties entendraient. Hein. Et surtout au retour, d'ailleurs. Voilà, mais à l'aller, ça peut tromper. Je vous le ferai écouter. Donc, rien qu'à l'écoute de cette voix-là, on n'est pas forcément très sûr de l'endroit où se passe la transition de mécanisme 1 à mécanisme 2. Avec les outils qu'on a à disposition de mesure du contact, on a le même type de courbe, comme vous le voyez là, et donc on a ici une information très précise de l'endroit où ce chanteur a eu, au niveau laryngé, une transition de mécanisme. Voilà, d'autres facteurs que l'enveloppe, là on a vu l'enveloppe du signal électrolithographique comme étant un outil pour voir les phénomènes de transition entre mécanismes, le quotient ouvert, le paramètre dont je vous ai parlé, est lui aussi un indicateur potentiel des mécanismes laryngés utilisés. Donc si on reprend cet exemple, ce glissant d'eau descendant, je vous ai fait écouter tout à l'heure, et qu'on mesure le quotient ouvert, dans la partie produite en mécanisme 2, voilà, on voit que le quotient ouvert a des valeurs élevées, de l'ordre de 70% de la durée du cycle glottique. Donc c'est ouvert, 70% de la durée du cycle glottique. En mécanisme 1, on voit qu'on passe à des valeurs bien plus basses. C'est ouvert de l'ordre de 50% de la durée du cycle glottique. Ça veut dire que la moitié de la durée du cycle glottique, les plis vocaux sont en contact. L'autre moitié, les plis vocaux sont écartés. Voilà. Enfin, si on regarde ces paramètres enveloppe et ces variations du quotient ouvert, on voit qu'on observe au moment des transitions des sauts de quotient ouvert, de fait. Puisque le quotient ouvert est plus élevé en mécanisme 2 qu'en mécanisme 1, dans ces zones de transition, on va avoir des variations de ce paramètre. Donc, grâce à tout ça, on peut proposer finalement un éclairage sur la notion de registre en voix chantée. Un éclairage qui spécifie qu'est-ce qui se passe, en tout cas, au niveau des mécanismes laryngés dans tel et tel registre. Donc, si je reprends maintenant les registres en voix chantée et que je les mets en lumière de la notion de mécanisme laryngé, voilà, je peux vous expliquer que finalement, la voix de poitrine, chez l'homme, s'est produite en mécanisme 1, la voix de fossé s'est produite en mécanisme 2. Chez la femme, la voix de poitrine, ça sera pareil, produit en mécanisme 1. La voix de tête sera produite en mécanisme 2. La voix de tête chez l'homme sera produite en mécanisme 1. Voilà. On peut ainsi mettre en lumière ces mécanismes, ces registres, et savoir dans quel mécanisme laryngé exactement ils sont produits. Alors après, on peut essayer de les mettre sur une représentation en fréquence et intensité de la voix humaine. Alors il faut voir que vous êtes capable de produire un certain nombre de fréquences, et à ces fréquences que vous produisez est associée une intensité du son produit. Et en fait, il y a un lien entre ces deux-là. C'est-à-dire que quand on chante dans le grave, on ne va pas forcément pouvoir produire de fortes intensités. Quand on chante dans l'aigu, on ne va pas forcément pouvoir produire de faibles intensités. C'est ce qui est représenté ici, donc pour les hommes et pour les femmes. Donc c'est un Moyen-Âge d'un grand nombre de chanteurs. On voit que le mécanisme 1, ici, se situe donc dans cette zone de fréquence dont on avait parlé tout à l'heure, et on voit ici quelle est la dynamique possible en moyenne chez les hommes et chez les femmes pour le mécanisme 1. On voit par exemple que si vous voulez chanter de façon très intense, très sonore dans l'aigu de votre voix, ben, vous avez intérêt à passer en mécanisme 1, vous avez intérêt à être en mécanisme 1. Parce que le mécanisme 2, ici, représenté en rose, a dans la partie basse de ce mécanisme 2, finalement, des intensités qui sont plus faibles que celles qu'on peut avoir en mécanisme 1. Ça peut se comprendre aussi. Hein. On a des plis qui sont massiques. Le contact va être plus massique. On va réussir à générer une onde acoustique qui aura plus d'intensité, plus d'énergie. Voilà. Alors, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a une zone de recouvrement de ces mécanismes. Donc, entre ici, le Mi2 et ici le Fa3, l'homme peut choisir d'utiliser l'un ou l'autre des mécanismes laryngés. Et d'ailleurs, le yodel, vous verrez qu'il va se situer dans ces eaux-là, où on va pouvoir utiliser l'un ou l'autre. Enfin, le yodel, ce n'est pas un très bon exemple, puisque justement, il change de hauteur. Donc, sur cet espace-là, on va maintenant pouvoir placer les registres tels qu'ils étaient nommés dans la littérature. Donc, par exemple, poitrine, tête chez l'homme et pleine tête, Donc ça, c'est du mécanisme 1 chez l'homme. Et on voit que pleine tête, par exemple, ça correspond à l'aigu et l'intense du mécanisme 1 chez l'homme. Le registre de belting, alors ça c'est un registre qu'on voit chez la femme, c'est le mécanisme 1 dans l'aigu et, en forte intensité. C'est par exemple la production que je vous ai fait écouter de Mahalia Jackson ou celle de Céline Dion sont considérées comme des registres de belting. Donc on voit qu'en mécanisme 2, bon bah le falsetto, chez l'homme, il n'y a pas beaucoup de distinction. Chez la femme, on distingue des registres au sein du mécanisme 2. Donc le middle, ça va être la partie moyenne du mécanisme 2, et le upper, la partie aiguë du mécanisme 2. Alors, on voit aussi qu'il y a cette zone de recouvrement des mécanismes, et on peut se demander qu'est-ce qui se passe dans cette zone. Et il se trouve que dans cette zone, justement, on retrouve des registres dont on va avoir comme terminologie dans la littérature voix mixte, middle, mid, mixed voice. Donc là, je voudrais juste aborder rapidement cette notion de voix mixte. Parce que beaucoup se demandent, mixte, pourquoi ça s'appelle mixte? Est-ce que c'est un mixte au niveau laryngé? C'est un mixte de quoi? Donc ça, je vais passer parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais vous montrer directement deux exemples concrets. Donc, l'exemple d'un contre-ténor qui va chanter des sons à la même fréquence, la même intensité, mais en chantant en voix de poitrine, en registre de poitrine, ou en registre dit de voix mixte. Donc ce sont ces qualificatifs. Ah, 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 ah. Sympa. J'aurais au moins pu vous montrer le spectrogramme. Donc voici le spectrogramme des sons qu'il vient de produire. Finalement, ce n'est pas quand même très informatif. Je vais vous faire écouter avec le spectrogramme. Donc là, ce sont les qualificatifs qu'il donne. Donc là, il chante en voix mixte, il chante en voix mixte, il chante en poitrine, il chante en voix mixte, en poitrine. Je vous fais écouter. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Encore une fois, des oreilles entraînées percevraient immédiatement les différences. Des oreilles non entraînées peuvent trouver que, qu'est-ce qu'elles nous racontent, là c'est le même son tout le temps. Donc nous, par contre, si on mesure ce qui se passe au niveau laryngé, si on essaye de définir ça en termes de mécanisme laryngé, donc voici ce qu'on mesure. Alors là, vous avez la courbe rose, l'intensité, qui vous montre que c'est produit tous quasiment à la même intensité. L'intensité reste constante. Vous avez la fréquence en vert ici qui vous montre que la fréquence est la même. Ça, on a bien entendu. Là, vous avez le quotient ouvert. Donc, vous voyez que pour les deux premières productions, on a un quotient ouvert aux alentours de 70% de la durée du cycle glottique. Et on a une amplitude de l'électroglottographie qui est plus faible que celle de ces deux cycles suivants. Et ainsi de suite, en mettant en correspondance toutes ces informations, on peut montrer que finalement, les deux premières productions de voix mixte sont produites en utilisant le mécanisme 2, et les productions suivantes de poitrine sont produites en utilisant le mécanisme 1. Deuxième exemple, une soprane. Alors elle va pas alterner, elle va faire que de la voix mixte. Donc je vous fais écouter ces exemples de voix mixte. Ah, ah. Voilà. Bon, c'est comme le chanteur précédent, c'est des voyelles tenues avec des couleurs très proches. Au niveau donc de la répartition spectrale, vous voyez, ça, c'est des sons qui se ressemblent beaucoup. Par contre, si on mesure les paramètres laryngés, on observe que dans un cas, on a cette amplitude de l'électroglottographie réduite avec un quotient ouvert qui est assez élevé par rapport au cas suivant où l'amplitude est plus importante et le quotient ouvert beaucoup plus bas. Et donc là, pareil, sur ces productions-là, on peut montrer que finalement, cette chanteuse produit en mécanisme M1 ces voyelles-là et en mécanisme M2 les autres. Et c'est très reproductible d'une fois sur l'autre. Donc, en résumé, cette étude qui a été menée sur le registre de voix mixte a montré que finalement, la voix mixte, elle est toujours produite en utilisant l'un ou l'autre des deux mécanismes laryngés M1 et M2. Donc, on n'a pas de mélange au niveau des paramètres glottiques qu'on mesure. Et puis, les chanteurs peuvent utiliser deux types de voix mixte. Vous avez vu cette soprane, par exemple, elle était dans son registre de voix mixte, mais finalement, de temps en temps, elle utilisait le mécanisme 1 et de temps en temps, elle utilisait le mécanisme 2. Donc, si on regarde au niveau de la représentation donc, en fréquence et en intensité de la voix, donc on a ici la répartition pour les sons produits en mécanisme 1, on voit que finalement, les sons produits en voix mixte en mécanisme 1 sont produits dans l'aigu de la voix dans l'aigu du mécanisme 1 et à faible intensité. Ce n'est pas des faibles intensités par rapport à la partie grave de la voix, mais c'est des intensités piano par rapport à ce qu'ils peuvent produire à ces hauteurs-là. La voix mixte en mécanisme 2, on voit qu'elle est produite aussi, elle est produite dans le grave du mécanisme 2 et à des fortes intensités. Et si on relie les deux ensemble, on voit que la voix mixte est vraiment située au cœur de cette zone de recouvrement des mécanismes. Donc, si on regarde un petit peu ce que font les chanteurs selon leur tessiture, on voit que les basses, les barytons, les ténors vont principalement produire leur registre de voix mixte en utilisant le mécanisme 1, alors que les sopranes vont principalement utiliser le mécanisme 2 pour produire leur registre de voix mixte. Et puis après, on a un ensemble de chanteurs, des altos, masculins, féminins, des mezzo-sopranes et des sopranes qui vont présenter des usages variés selon ce qu'ils souhaitent mettre en avant. Alors, on peut voir aussi que vraiment, la voix mixte, c'est pas la reproduction d'un ou de l'autre des mécanismes, parce qu'au niveau spectral, vous avez par exemple ici le spectre en rose d'une production en mécanisme 2 et le spectre en bleu d'une production en mécanisme 1. En pointillé, c'est la production en voix mixte en mécanisme 1. Donc vous voyez qu'elle ne se superpose pas au bleu, elle se distingue du bleu. Pareil, si on regarde la voix mixte en mécanisme 2, on s'attendrait, puisque c'est du mécanisme 2, à ce que spectralement, ça soit proche de la courbe rose qui représente le mécanisme 2. Or, pas du tout. En fait, pour la voix mixte en mécanisme 2, on voit qu'elle... Le chercheur a choisi de quelque part de trouver des solutions pour aller trouver un timbre qui soit celui du mécanisme 1, même si il le produit en utilisant un autre mécanisme. Donc, pour conclure cette partie-là sur les registres en voix chantée, donc l'importance dans les registres en voix chantée, c'est de bien définir ce qu'on entend derrière un registre vocal avant de lui donner un terme, et puis d'être précis aussi sur comment on l'identifie. J'espère vous avoir sensibilisé là-dessus. Donc, dans la recherche, on peut identifier les registres vocaux, en tout cas la nature laryngée des registres vocaux, en utilisant des phénomènes de transition et des mesures électroglottographiques. Voilà, il reste néanmoins un grand nombre de questions par rapport à ces registres en voix chantée. En particulier, là, je vous présente une coupe histologique des plis vocaux. Comment se fait ce couplage-découplage ? Voilà. Et même dans la voix mixte, on peut être intéressé de voir s'il se passe quelque chose aussi au niveau du couplage-découplage qui faciliterait ou empêcherait la vibration. Voilà. Et puis, la voix mixte est un bel exemple aussi, finalement, d'une recherche d'équilibre entre la vibration des plis vocaux et puis des ajustements supraglottiques, des ajustements résonantiels. Visiblement, le chanteur, pour obtenir un timbre vocal qui soit proche d'une production dans un mécanisme qui n'est pas celui qu'il utilise, il est forcément obligé de jouer sur d'autres facteurs que son larynx, donc il utilise ses résonateurs. De quelle façon il les utilise, ça c'est des questions ouvertes auxquelles pour l'instant on n'a pas amené de réponse. Enfin, la voix de sifflet, donc le mécanisme 3, Ça aussi, c'est quelque chose qui est très débattu en ce moment. C'est difficile d'accès puisqu'il faut, des moyens expérimentaux qu'on n'a pas forcément à disposition jusqu'à présent pour aller comprendre ce qui se passe dans ce mécanisme-là par rapport aux autres mécanismes. Voilà, je vais maintenant passer le temps qui me reste à vous parler des stratégies d'ajustement résonantiel. Donc là, je vous ai parlé de la source. Maintenant, je vais vous parler du filtre, mais du filtre en relation avec la source. Donc, si je reprends un petit peu le schéma traditionnel de l'instrument vocal humain, donc on a un niveau sous-glottique, la respiration. Donc, l'air qui est envoyé rentre en contact des structures, génère par cette interaction fuite-structure une onde acoustique. Donc, c'est le niveau glottique, le siège de la phonation. Et puis ensuite, cette onde acoustique, elle se propage, elle est rayonnée vers l'extérieur, elle est modelée par les articulateurs. Donc la théorie source-filtre, dont vous a déjà beaucoup parlé Christine, elle dit que, donc, au niveau de la vibration des plis vocaux, on a la génération d'une source acoustique qui est une source harmonique. Donc elle a de la fréquence dans un fondamental et dans tous ses multiples. Et l'énergie de cette source harmonique va en décroissant avec la fréquence. Donc il y a beaucoup d'énergie dans le fondamental, et plus on va en, plus on regarde les fréquences élevées, et plus l'énergie baisse. Cette source va être filtrée par les cavités de résonance du conduit vocal. Donc, on a cette source harmonique qui contient donc de l'énergie à chacune de des fréquences des harmoniques. Elle est filtrée par le conduit vocal. Donc, en sortie des lèvres, on a cette voyelle. Une voyelle, c'est quoi? Si on regarde un peu plus précisément, eh bien, c'est une série d'harmoniques avec certains qui ont eu un renforcement d'énergie et d'autres non. Voilà. Et ce renforcement d'énergie est lié au filtre, donc au geste articulatoire que vous utilisez. Et donc, ça peut être intéressant d'aller rechercher quelles sont, sur une production vocale, les résonances sous-jacentes qui ont permis d'aller accentuer ici l'énergie dans ces fréquences harmoniques. Donc, c'est ce qui se passe quand on fait des voyelles. Voilà, quand on fait des voyelles, on va utiliser notre articulateur pour modeler la cavité. Et on va, du coup, pouvoir faire changer la position de ces résonances, et en particulier des deux premières. La première résonance et la deuxième résonance. Ça, c'est déjà quelque chose que vous a montré Christine tout à l'heure. Donc, je vais être très brève là-dessus. Donc, elle vous a parlé de ce triangle vocalique des voyelles. Donc, on voit que la première résonance a des valeurs qui, ici, varient entre 300 et 800 Hz. Voilà, et on voit que le I, le U et le OU partagent, finalement, des valeurs similaires pour la première résonance. Le A a la valeur de la première résonance la plus élevée, aux alentours de 800 Hz. La seconde résonance, donc ce second pic, lui varie entre 800 et 2500 Hz. Et on voit que c'est finalement ce qui distingue, un des aspects qui distingue le OU du U et du I. Donc si maintenant on s'intéresse à cette première résonance et qu'on la positionne sur une portée musicale, voilà où est-ce qu'on mettrait ces notes. Ces résonances. Donc, on voit que le OU, le U et le I ont des résonances qui sont situées dans cette gamme-là de fréquences. Et puis, plus on va vers le A, plus on monte vers l'aigu. Jusque-là, pas de problème. Mais maintenant, si on regarde un petit peu les tessitures des chanteurs, on voit que finalement, une basse ou un baryton n'aura pas grande difficulté à chanter l'ensemble des voyelles, puisque finalement, sa fréquence fondamentale sera toujours plus basse que la fréquence de résonance. Donc la résonance pourra toujours donner de l'énergie au moins à un harmonique. Alors que pour les sopranes, on a un problème. On a un problème parce que les sopranes, quand elles vont vouloir chanter un OU, un I, un U à 600, à 800 Hz dans le haut de leur tessiture, eh bien, il n'y a plus de possibilité pour la résonance, la première résonance, de donner de l'énergie au fondamental. Donc, que font-elles? Qu'est-ce qu'on va faire quand on va devoir chanter dans l'aigu? Alors, voici une petite expérience. Donc, c'est une gamme chantée par une soprane sur diverses voyelles.
La, 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 la,
on a l'impression, quand on entend ces gammes, que on suit les voyelles. Maintenant, prêtons-nous à un petit jeu. C'est ce qu'ont fait ces chercheurs en Australie. Ils ont gardé que la note la plus grave et la note la plus aiguë de ces vocalises. Donc, voici les dans le grave.
La, lo, lou, le, li.
Et à présent, dans l'aigu. Alors, par contre, le problème dans l'aigu, c'est que ce sont des taquins. Donc, ils ont mélangé, ils ont mélangé les voyelles et ils ont ouvert un concours sur Internet pour que les gens devinent dans quel ordre avaient été positionnées les voyelles. Donc, je vous laisse écouter et puis si vous devinez, vous pouvez participer au concours. Ça vous illustre perceptivement ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que dans l'aigu, si on peut chanter quelque chose, on va pouvoir chanter que quelque chose qui ressemble à un A, si on peut chanter quelque chose. Donc ça, c'est une question qui a déjà animé les chercheurs dans les années 70, et là, vous avez les travaux présentés par Sundberg à l'époque, qui montraient comment une soprane chante les voyelles et comment elle les chante quand elle monte dans l'aigu. Donc, il montrait que dans le grave, ici, la fréquence de la première résonance, alors là, il appelait ça déformant, de ces voyelles était distincte, et puis que plus on montait dans l'aigu, plus ces voyelles se retrouvaient toutes à la même fréquence de résonance. Voilà. Et quelle était la stratégie? C'est la deuxième courbe. La stratégie, eh bien, c'était d'ouvrir la mâchoire. Voilà. Un conseil donné par beaucoup de profs de chant aux pauvres sopranes qui peinent dans l'aigu. Ouvrez votre mâchoire. Voilà. Donc, si on revient à notre théorie sur ce filtre, à l'époque, c'était très difficile, finalement, d'aller mesurer les résonances acoustiques du conduit vocal. Actuellement, il existe des méthodes d'estimation des fréquences du conduit vocal. Toutes ces méthodes sont basées sur la théorie sur ce filtre. Donc, quelque part, elles sont biaisées par le fait qu'on suppose quand même une source et un filtre. Et du coup, si on essaye d'appliquer ces méthodes source-filtre à l'estimation formantique, on se retrouve dans ces problèmes-là, qui est que quand on est une voix de basse, on est bien échantillonné en fréquence, donc on a beaucoup d'informations au niveau fréquentiel pour aller chercher la position des résonances. Quand on est une voix de soprane, on chante dans l'aigu, et du coup, pour savoir, avec les informations spectrales dont on dépend, où est la résonance, ça devient très difficile. Heureusement, ces fameux collègues australiens ont développé une méthode alors qui s'inspire de méthodes par excitation externe. Alors, les méthodes par excitation externe, c'est qu'on va essayer de trouver des façons d'aller exciter le conduit vocal indépendamment de ce que font les plis vocaux. Donc, on a des excitations mécaniques. Là, je vous avais ramené un exemple, une excitation mécanique. Par exemple, c'est un laryngophone. Ça, c'est une source assez grave. Si maintenant, je l'applique sur mon cou, et si j'articule, ça va vous faire des voyelles.
Avec ça, je peux parler, vous me comprenez.
Voilà, donc ça, c'est à disposition des personnes laryngectomisées qui n'ont plus d'usage de plis vocal, qui n'ont plus la possibilité de faire un son de voix grâce à leurs plis vocaux et qui vont devoir avoir des outils de suppléance vocale. Voilà, on peut trouver des excitations par bruit blanc ou des excitations par M0. Par exemple, quand je vous fais... Le M0, c'est une fréquence très grave, donc elle va échantillonner grandement le spectre et on va pouvoir voir très nettement les fréquences de résonance. Donc la technique la plus intéressante actuellement, celle développée par ses collègues australiens, c'est d'injecter à la bouche un signal qui est de 5 Hz et de tous ses harmoniques, donc qui est espacé de 5 Hz, donc il y a beaucoup, beaucoup d'énergie sur un grand nombre de fréquences. Et donc on va pouvoir, grâce à ce signal qui est injecté pendant que la personne fait un son, on va pouvoir avoir l'information donc de la note chantée et puis aussi l'information des résonances. Vous voyez que finalement la charge, ce signal, il charge le conduit vocal et la réponse du conduit vocal à ce signal, c'est des zones qui vont être amplifiées aux fréquences de résonance du conduit vocal. Voilà, donc ça c'était un petit exemple pour vous montrer comment ça marche. On place un chanteur dans une chambre sourde, on lui dit de chanter une note et puis une fois qu'il s'est installé sur sa note, on injecte le signal aux lèvres et on lui demande de tenir sa note le temps que le signal soit injecté. Puis quand ça s'arrête, il a le droit de s'arrêter de chanter. Donc vous voyez, c'est pas très sonore, c'est pas très gênant, c'est pas très perturbant pour le chanteur, mais nous, c'est très informatif. Donc grâce à cette méthode, on peut aller faire une mesure physique des résonances, savoir à quelle fréquence sont situées ces résonances, indépendamment de ce qui se passe au niveau de la source. Là, le chanteur, il fait ce qu'il veut au niveau de la source. Nous, on mesure ce qui se passe au niveau des propriétés acoustiques des cavités de résonance. Alors là, je vous présente dans le cas de la voyelle E contenue dans le mot « heard », qu'on observe en moyenne chez des chanteurs lyriques. Donc là, c'est le cas des barytons. Donc on voit que la première résonance, ici, reste relativement stable et qu'à la fin, dans la partie aiguë de leur tessiture, ben, ils ouvrent un petit peu la bouche. Elle monte légèrement. En tout cas, on voit aussi qu'elle reste toujours au-dessus de cette ligne pointillée-là qui correspond aux premières harmoniques. Donc cette première résonance, elle va toujours donner de l'énergie aux harmoniques de rang élevé. Chez les ténors, c'est la même stratégie, donc on garde cette résonance constante. C'est souhaitable puisque quelque part, on veut chanter une voyelle et que ces fréquences de résonance sont vraiment ça qui va décider de la voyelle qu'on perçoit. Dans le cas des altis, on commence à percevoir le problème, c'est-à-dire que quand elles arrivent dans l'aigu de leur tessiture, eh bien, elles arrivent à proximité de la fréquence chantée, donc la fréquence de première harmonique, la fréquence fondamentale de vibration. Si elle maintenait la résonance constante, ça voudrait dire qu'après, la résonance passe en dessous de ce premier harmonique. Donc, cette résonance, elle ne sert à rien. Elle n'apporte de l'énergie à rien, puisque une résonance, ça peut apporter de l'énergie aux endroits où il y en a déjà. Ça ne peut pas en créer. Et donc, plus on monte dans l'aigu, et c'est le cas des sopranes, et on voit que finalement, au lieu de garder la fréquence de résonance constante, eh bien, ils vont accrocher le premier harmonique, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, plutôt que de laisser cette fréquence de résonance constante, ils vont être obligés de trouver des stratégies articulatoires pour que la fréquence de résonance monte en même temps que la fréquence de la note chantée monte. Voilà, et c'est quelque chose qu'on va retrouver sur toutes les voyelles. Donc, dans le cas d'une voyelle A, où la fréquence de la première résonance est très élevée, aux alentours de 800 Hz, cet accord entre la fréquence de la résonance et la fréquence du fondamental va commencer très tardivement sur la tessiture du chanteur. Dans le cas du OU, où la fréquence de résonance, la fréquence de résonance la plus basse, donc R1, est située aux alentours de 300 Hz, et bien dès que le chanteur se met à chanter dans ces eaux-là, donc c'est du Mi3, eh bien, à ce moment-là, il va devoir développer cette stratégie d'accord entre la fréquence de résonance et la fréquence de la note qu'il veut chanter, s'il veut pouvoir continuer à produire un son. Parce que concrètement, qu'est-ce qui se passe si le chanteur ne fait pas cet accord? La note s'arrête. Enfin, le son ne peut plus sortir de la bouche. Alors, est-ce qu'il y a une dépendance avec le niveau d'entraînement? La réponse est oui et non. Alors, non pour ce qui est de la stratégie d'accord, puisque finalement, qu'on soit chanteur professionnel ou qu'on soit chanteur amateur, ou qu'on ne soit pas chanteur du tout, quand on fait un son, dans l'aigu, il y aura forcément cet accord entre la résonance et le fondamental, à partir du moment où la résonance se situe à proximité du fondamental. Par contre, les chanteurs professionnels montrent que cet accord se fait plus tôt pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont le débuter, ici cette chanteuse le débute vers un Do 4, alors que la chanteuse non experte ici va le débuter vers un Mi 4. Là je vais passer parce que ça va vous perdre. Ça c'est le résumé de l'ensemble des données qu'on observe chez 22 chanteurs, donc pour différentes voyelles. On observe que dès qu'ils sont dans l'aigu de leur voix, ils vont avoir systématiquement cet accord R1-F0. Et puis, quand ils sont dans la partie médiane à aiguë de leur voix, ils vont développer d'autres stratégies, comme par exemple accorder leur première résonance à un deuxième harmonique. C'est ce qu'on observe ici, par exemple, chez cet alto A2. L'alto A1 développe cette stratégie de résonance, d'accord résonantiel entre R1 et F0. L'alto A2 accorde sa première résonance à son deuxième harmonique et du coup ne va pas aller jusqu'au premier. Elle va rester accrochée au deuxième. On trouve ça, cet accord R1-2F0, on le trouve par exemple dans les comédies musicales, chez les femmes et chez les hommes de comédies musicales, c'est ce qu'on observe. Donc quand ils chantent dans un style comédie musicale qui est proche de la voix de tête, il ne se passe pas d'accord, mais dès qu'ils font ce registre dit de belting, que ce soit du chesty ou du twangy, c'est des distinctions de nasalité, eh bien on observe un accord entre la fréquence de résonance, de la première résonance, et puis le deuxième harmonique, le premier harmonique étant ici. Voilà. Alors juste pour mentionner qu'on trouve ça aussi dans le chant bulgare féminin. Donc là, vous voyez la première résonance en rouge avec les lignes harmoniques, première harmonique, deuxième harmonique. On retrouve aussi cet accord résonantiel. Voilà, j'ai faim. Moi, je vais arrêter. Hein. Je vais conclure par ça. Parce que du coup, vous êtes en train de vous dire, mais... Si finalement ces chanteurs modifient tellement leur gestes articulatoires, modifient tellement leur fréquence de résonance, du coup, finalement, ils ne chantent plus du tout les voyelles qui sont censées chanter. Donc, je vais faire avec vous une petite expérience perceptive que je dois à Michel Castelengo, qui donc avait demandé à une soprane, elle lui avait donné une phrase, elle lui avait demandé de la chanter à différentes hauteurs. Donc là, je vais vous faire écouter le plus aigu. Donc il faut deviner hein, en fait ce que chante la soprane. Je désespère. Vous désespérez d'avoir votre pause déjeuner. Hein. Donc je vous fais écouter un peu plus grave. Le désespoir. C'est plus je désespère, c'est le désespoir. On se rend compte que c'était incompréhensible dans l'aigu, que ça devient très, très, très clair dans le grave. Maintenant, je vais vous faire réécouter. Écoutez attentivement.
Mais oui, messieurs. Mais oui, messieurs. Mais oui, messieurs. Mais oui, messieurs.
La conclusion de cette expérience, c'est que elle chante, voilà, elle chante des sons qui ne sont a priori pas catégorisable, mais dès qu'on sait qu'elle chante, ben c'est bon, on l'entend. Donc, je vous conseille très vivement de travailler le livret avant d'aller à l'opéra. Ceci dit, actuellement, voilà, actuellement, on a des prompteurs à disposition qui font le travail pour nous. Donc, merci les prompteurs. Et puis, si votre prompteur tombe en panne, c'est un problème. Voilà, donc je vais passer à ma conclusion. Donc, j'ai abordé quelques aspects de ce qu'on sait actuellement de la voix chantée. Si vous voulez en savoir plus et si vous acceptez de lire en anglais, il y a un article récent qui vous présente les progrès récents et les questions ouvertes sur la voix chantée, donc qui dresse un panel complet de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Voilà, et puis vous pouvez consulter mon site web. Et puis, je voudrais aussi dire que ce travail, ben, c'est évidemment pas un travail en solitaire, mais qu'il y a plein de gens avec qui j'ai plaisir à échanger au quotidien. Donc là, je remercie certains qui sont impliqués directement dans ce que j'ai présenté aujourd'hui. Et puis, ben, je remercie aussi tous mes collègues, parce que vraiment, c'est un plaisir de travailler au quotidien sur ce sujet-là. Merci.